de Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français présente les nouvelles, les informations et les divertissements de l'Indonésie. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours à la fréquence d'ondes courtes 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id.
Bonsoir à tous, ravi de vous rencontrer dans l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Aujourd'hui, je m'appelle Tiwi et je vais vous accompagner pendant 60 minutes pour présenter un certain nombre de programmes tels que le journal, le commentaire, l'histoire d'aujourd'hui, mon Indonésie, le magazine culturel, l'Indonésie en couleur et des chansons indonésiennes. Comme d'habitude, nous commençons par le journal. Soyez toujours avec nous à Voice of Indonesia de l'Indonésie au monde.
RRI, la voix de l'Indonésie avec le journal.
Chers auditeurs, bonsoir. Voici le journal. Nous commençons avec les titres. Le président ordonne une percée pour réduire l'impact de corona sur l'économie. Le groupe de travail de Garuda a fini d'aider à surmonter les incendies de forêt en Australie. Le ministère des Affaires maritimes et de la pêche a arrêté 5 navires étrangers qui ont volé des poissons dans les eaux de Natuna. Edgman et Biopharma intensifient leurs efforts pour produire des vaccins. Ex-Cam Vietnam à Batam devient l'hôpital corona de 1000 patients et enfants. La Russie accuse la Turquie de ne pas respecter l'accord sur la zone démilitarisée syrienne. Voici le journal complet. Le président Joko Widodo a ordonné au ministère et aux institutions de mettre en œuvre des politiques innovantes et de pouvoir devenir une percée au milieu d'une situation économique de plus en plus difficile en raison de l'épidémie de nouveaux types de virus corona ou COVID-19. Le président Joko Widodo, lors de l'ouverture de la réunion de travail du ministère du Commerce au Palais d'État de Jakarta, a déclaré mercredi que l'émergence du virus corona a rendu la situation économique de plus en plus difficile au milieu d'une guerre commerciale mondiale inachevée entre les États-Unis et la Chine. Par conséquent, le président Joko Widodo a rappelé que la situation économique n'est plus normale, à laquelle il faut répondre par une politique réactive. Une percée politique est nécessaire pour empêcher l'impact du virus corona sur tous les secteurs économiques, à la fois les exportations, les importations et la production. Le chef de l'État a demandé au ministère d'assouplir les procédures d'octroi de licences et de réduire les étapes bureaucratiques qui perturbaient les activités économiques. Le groupe de travail Garuda est retourné en Indonésie après avoir achevé sa mission d'aider à surmonter les incendies de forêt et de terre en Australie, comme indiqué dans une déclaration écrite de l'ambassade d'Indonésie à Canberra, reçue à Jakarta mercredi. Selon le commandant de GTF 0000, le général de brigade Michael Garway a répété un message similaire précédemment livré par le lieutenant-colonel René Kitson des forces armées australiennes, ADF, lors de la cérémonie de libération du groupe de travail au siège de l'armée aérienne Richmond RAAF Australie, que les vrais amis ne parlent pas seulement, mais ils aident avec le travail réel. Ce message a été transmis comme une forme d'appréciation de l'ADF au groupe de travail de Garuda qui a rejoint Bashfire Assistance Operation caucus du mois dernier à travailler ensemble pour lutter contre les incendies et son impact en Australie. L'ambassadeur d'Indonésie en Australie, Christiarto Legowo, a remis 41 certificats d'attribution à des membres de TNI et à deux membres de l'équipe de BNPB pour remercier le représentant indonésien en Australie pour le dévouement et la performance du groupe de travail de Garuda qui ont joué un rôle important dans la réalisation de la diplomatie bilatérale et humanitaire de l'Indonésie. La Direction générale de la supervision des ressources maritimes et halieutiques du ministère des Affaires maritimes et de la Pêche a arrêté 5 navires étrangers qui ont volé des poissons dans la mer du nord de Natuna. Cela a été dit par le ministre des Affaires maritimes et de la Pêche, Eddie Prabowo, lors d'une conférence de presse tenue à la base de PSDKP Batam, aux îles de Riau, mercredi. Sur les 5 navires, les officiers ont arrêté 68 membres d'équipage de nationalité vietnamienne. Les auteurs de pêche illégale seront également poursuivis à la base de PSDKP Batam. Il a déclaré que le succès de la capture de navires de pêche étrangères illégaux cette fois était le résultat d'une opération structurée menée par 5 navires de contrôle des pêches dans la mer du nord de Natuna, à savoir le navire de surveillance de Paus 01, le navire de surveillance de Hiu Machan Tutul 02, le navire de surveillance d'Orca 01, le navire de surveillance d'Orca 02 et le navire de surveillance d'Orca 03. Selon Eddie Prabowo, c'est également la réponse du ministère des Affaires maritimes et de la Pêche dans l'exécution des directives du président visant à améliorer la supervision et la forme de la présence du pays dans la mer du Nord de Natuna. Le ministère de la Recherche et de la Technologie, en tant également chef de l'Agence nationale de recherche sur l'innovation, Bambang Brojonegoro à Jakarta, a déclaré mercredi que l'Institut de biologie moléculaire Egypten et Biopharma travaille actuellement de manière intensive à la fabrication de vaccins contre le virus corona. À cet égard, Bambang a admis que jusqu'à présent, il n'avait pas effectué de suivi plus détaillé auprès d'autres agences, y compris avec l'Institut indonésien des sciences, ou LIPI, pour trouver le vaccin contre le virus corona. Pendant un certain temps, le gouvernement vient de faire l'institution Egypten et Biopharma à la fabrication de vaccins contre le virus corona. De plus, les deux agences sont des institutions de biologie moléculaire jugées appropriées. Auparavant, le directeur de l'Institut de biologie moléculaire Egypten, le professeur Amin Subandrio, a affirmé qu'il y avait en effet discuté avec PT Biopharma concernant le développement du vaccin corona. Le développement de vaccins pour prévenir certaines infections n'est pas facile et nécessite un temps jusqu'aux années, car il doit passer les différentes étapes, y compris les essais précliniques sur les animaux, les essais cliniques sur les humains. Un hôpital spécial pour les maladies infectieuses qui sera construit sur l'île de Galang à Batam pourrait accueillir jusqu'à 1000 patients atteints de maladies infectieuses, y compris le virus corona. Cela a été révélé par le commandant de TNI, le maréchal Hadi Cahyanto, lors d'observer l'emplacement où l'hôpital a été construit, ex-Cam Vietnam, l'île de Galang, Batam, aux îles de Riau, mercredi. Il a observé l'emplacement de la construction de l'hôpital avec le ministre des Travaux publics et de l'isolement public, Basuki Hadi Mulyono, faisant suite au plan du gouvernement, comme a affirmé le président Joko Widodo, qu'il construit un hôpital pour les maladies infectieuses sur l'île de Galang. L'ancien bâtiment du refuge vietnamien est un ancien abri pour les demandeurs d'asile du Vietnam qui fonctionne désormais comme un lieu touristique historique. L'emplacement est environ 1h30 du centre-ville de Batam. Le gouvernement rénovera le bâtiment d'un ancien hôpital qui existe toujours. Le bâtiment qui se trouve dans la zone de l'ex-Cam du Vietnam est toujours solide et n'a besoin que de rénovation dans certaines parties. Mercredi, la Russie a accusé la Turquie de ne pas avoir rempli ses obligations en vertu de l'accord visant à créer une zone démilitarisée dans la province d'Idlib, en Syrie, et à plutôt aider les combattants. L'agence de presse RIA, qui a cité un porte-parole du ministère russe de la Défense, a déclaré que le bastion de défense terroriste avait rejoint l'avant-poste sur Idlib, entraînant une attaque quotidienne contre la base aérienne russe Meimim en Syrie. La Turquie a rassemblé un certain nombre de troupes à Idlib avec la division mécanique qui viole le droit international, a déclaré un porte-parole russe. Des accusations russes apparaissent avant une rencontre jeudi à Moscou entre le président turc Tayyip Erdogan et le président Vladimir Poutine. Ils devraient essayer de réduire les tensions, ce qui a presque conduit la Turquie et la Russie à une confrontation militaire directe. Serge Littor, c'était le journal de la Voix de l'Émilie à Jakarta.
Le BPIP doit-il être dissu? L'existence et la fonction de l'Agence de développement idéologique de Pantachila, en abrégé BPIP, ont été mises en évidence récemment. Certaines déclarations controversées du chef de BPIP, Yudian Wajudi, ont été tellement déclencheurs et en conséquence, le 7e congrès de la communauté musulmane indonésienne qui a été tenu à Bangka Belitung en province de Bangka Belitung ou Babel, du 26 au 29 février 2020, a exhorté le président Joko Widodo à dissoudre cette institution. Le vice-président du MUI, le Conseil communauté musulmane indonésienne, Kiai Haji Muhyiddin Junaidi, lors de la clôture du congrès, a mentionné l'existence du BPIP dans l'interprétation de Pancasila n'est plus nécessaire. Il a exhorté le gouvernement à restituer l'interprétation de la Pancasila à l'Assemblée consultative populaire MPR. En réponse à cette demande, le palais a déclaré qu'il ne dissoudrait pas le BPIP. Le vice-président Maruf Amin a déclaré que si la performance actuelle du BPIP n'était pas encore considérée comme optimale, sa performance devait être améliorée et non l'institution dissoute. Pancasila est la fille de la vie indonésienne. L'histoire a révélé que Pancasila est l'âme de tous les Indonésiens qui sont capables de donner une force vitale au peuple indonésien et de le guider dans la poursuite d'une société indonésienne juste et prospère. Pancasila en tant que principe national doit être appliqué en Indonésie car il est important dans la vie des Indonésiens. Dans le passé, l'éducation sur la valeur du Pancasila se faisait par le biais d'une formation abrégée P4. Était considéré comme rigide avec l'approche endoctrinement. En conséquence, l'endoctrinement se traduit par une pseudo-succès en peu de temps, tout en provoquant une antipathie. Conformément au règlement présidentiel numéro 7, l'année 2018, concernant le Conseil de développement de logis de Pancasila, cette institution a pour mission d'aider le président à formuler l'orientation politique de l'idéologie de Pancasila, à coordonner, synchroniser et contrôler le développement global et durable de cette idéologie de Pancasila. Compte tenu de sa fonction très noble, le BPIP n'a pas besoin d'être dissous. Mais maintenant, les performances de BPIP doivent être améliorées au maximum. Plus important encore, toutes les parties prenantes, en particulier les fonctionnaires de l'État et les dirigeants communautaires, doivent se comporter conformément aux valeurs de Pancasila ou les cinq principes de base contenus dans le Pancasila. Chers auditrices et auditeurs, c'était le commentaire pour ce soir.
Voici l'histoire d'aujourd'hui, le 5 mars 2020. On commence par le 5 mars 1909, la naissance de Sultan Shahrir. Sultan Shahrir est homme intellectuel et pionnier de l'indépendance de l'Indonésie. Il est né à Padang Panjang, Sumatra de l'Ouest, le 5 mars 1909. Après l'indépendance de l'Indonésie, il est devenu le premier homme politique et premier ministre indonésien du 14 novembre 1945 au 20 juin 1947. Shahrir a fondé le Parti socialiste indonésien en 1948. Il est mort en exil en tant que prisonnier politique et on l'a enterré au cimetière des héros de Kalibata, Jakarta. On a fixé Sultan Shahrir comme l'un des héros nationaux de l'Indonésie le 9 avril 1966. Le 5 mars 1970, on a fixé le traité de non-prolifération nucléaire. Le traité de non-prolifération nucléaire a été signé le 1er juillet 1968 pour limiter la possession d'armes nucléaires. La plupart des États membres de l'Organisation des Nations Unies ont signé l'accord, à l'exception de l'Inde, d'Israël et du Pakistan, même s'ils disposaient d'armes nucléaires. L'accord est entré en vigueur le 5 mars 1970, après avoir été ratifié par l'Angleterre, l'Union soviétique, les États-Unis et 40 autres pays. Cet accord a été proposé par l'Irlande, a été signé pour la première fois par la Finlande. Cet accord comporte trois points principaux, à savoir la restriction, le désarmement et le droit d'utiliser la technologie nucléaire à des fins pacifiques. Le 5 mars 1963, Joseph Staline est décédé. Joseph Staline était une figure révolutionnaire et un politicien de l'Union soviétique d'origine géorgienne. Il est devenu chef d'État de l'Union soviétique du milieu des années 1920 à la fin de sa vie en 1953, dont le titre était de secrétaire général du Parti communiste de l'Union soviétique de 1922 à 1952 et chef du gouvernement de l'Union soviétique de 1941 à 1953. Staline est devenu le dictateur de facto de l'Union soviétique en 1930. En tant que fidèle pratiquant du marxisme selon les théories du léninisme, il a été reconnu pour avoir standardisé ses idées dans le marxisme-léninisme, tandis qu'on connaît ses politiques comme stalinisme. Joseph Staline est décédé le 5 mars 1953 à l'âge de 74 ans. Voilà l'histoire d'aujourd'hui. Voilà la chanson intitulée Wanita Indonesia, qui signifie des femmes indonésiennes, chantée par Oppy Andaresta. Vous êtes toujours avec nous à Voice of Indonesia, de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz. Vous pouvez écouter notre émission sur le site web de www.voinews.it. Pour vous, chers auditeurs, voici mon Indonésie. Voici mon Indonésie, dont le titre est « Le ministère de l'Environnement et des Forêts font écho à la commémoration de la Journée nationale du traitement des déchets ». On a prévu 5 destinations touristiques nationales super prioritaires, à savoir le lac de Toba, la Labuan Bajo, le temple de Borobudur, la région de Mandalika et la région de Likupang, pour devenir le centre de commémoration de la Journée nationale du traitement des déchets, ou en indonésien, Hari Peduli Sampah National, ou abrégé en HPSN en 2020. On espère que HPSN 2020 sera le premier élan pour avancer ensemble avec tous les acteurs de la gestion des déchets qui sont plus intégrés, systématiques et durables à la nouvelle ère de gestion des déchets en Indonésie. Sur le lac de Toba, cette commémoration est centrée sur la géocité de Sipinsur, le village de Pearung, le district de Paranginan, la région de Humbang Hasundutan, le samedi 29 février 2020, dont le thème est l'Indonésie propre, l'Indonésie avancée et l'Indonésie prospère. Étant donné que le lac de Toba est l'une des destinations super prioritaires, dont les installations de soutien, y compris la gestion des déchets dans la région du lac de Toba, doivent être une priorité absolue pour soutenir des zones de destination propres et sans déchets. Le sous-ministre de l'Environnement et des Forêts, Aloué Dohong, dans ses remarques à l'avertissement du HPSN, a déclaré que la clé du tourisme avancé est la propreté. Un emplacement touristique propre sera une promotion positive pour les objets touristiques. Selon lui, la sensibilisation de toutes les parties à travailler ensemble pour gérer les déchets augmentera également l'impact positif et améliorera la qualité de la gestion des déchets en Indonésie. Cela fournira également un soutien complet au développement des destinations touristiques en Indonésie. Aloué Dohong était reconnaissante que le développement de la participation du public sous forme de communautés impliquées dans la gestion des déchets est augmenté. Il a expliqué qu'en 2015, seulement 1100 groupes ou communautés étaient impliqués dans 18 districts ou villes. Mais en 2019, il y avait 5440 communautés impliquant 9,5 millions de personnes dans 186 districts ou villes. Il a ajouté que le problème des déchets nécessite des efforts et des politiques extraordinaires de toutes les parties, car la condition nationale de production des déchets a atteint environ 67,8 millions de tonnes en 2020. Ce nombre continuera de croître avec la croissance démographique et les modes de vie de plus en plus complexes et pratiques.
Ku tak akan terus jalani antara kau dan aku.
Voilà la chanson de Armada, intitulée « Mau dibawa kemana » qui signifie « Tout veut l'emmener où ?» Et maintenant, nous allons vous présenter le magazine culturel sur le tourisme et la sagesse locale du peuple indonésien. Voice of Indonesia avec le magazine culturel. Aujourd'hui, nous vous présentons le village de Raja Prailiu à Nusa Tenggara de l'Est. Chers auditeurs, le village de Raja Prailiu est un très beau et célèbre village pour le caractère unique des bâtiments résidentiels, des traditions uniques et de l'artisanat du tissu situé dans la ville de Waingapu, Sumba de l'Est, Nusa Tenggara de l'Est. Le caractère unique de ce village traditionnel est la maison traditionnelle appelée Uma Mbatang ou Uma Hori, qui existe encore aujourd'hui. L'existence de cette maison haute est toujours liée à la confiance de la population. La maison traditionnelle a une haute structure avec un toit en feuilles. Ces maisons se composent de trois parties qui symbolisent la partie souterraine comme la maison des mortes, la partie centrale comme la maison pour la vie et le toit comme la maison de Dieu. Chers auditeurs, il y a une habitude unique si des étrangers entrent dans ce village touristique. On offrira aux visiteurs de manger de feuilles de syrie. Syrie ou le betel est un aliment obligatoire pour les visiteurs du village de Prailiu. Si vous ne l'aimez pas, vous n'avez pas à le manger. Mais vous devez être poli et ne pas refuser de manger du syrie afin de respecter les habitudes de la communauté locale. Dans ce village, vous pouvez voir le processus de fabrication du tissu tissé de Sumba de l'Est. Vous pouvez voir le processus de fabrication de tissu par les habitants du village. On a fait tout le processus de fabrication du tissu, de la filature à la teinture, en utilisant des mains et des outils traditionnels. La couleur est dominée par le rouge, le bleu, le violet foncé. Pour les teintures textiles, on utilise des ingrédients naturels. En outre, il existe également une sépulture mégalithique en pierre, appelée Reti, et des statues du passé qui sont encore bien conservées. On orne ce tombeau de pierre de sculptures d'humains, de crocodiles, de tortues, de singes, de crevettes. Il y a aussi un tombeau en pierre de très grande taille. Chers auditeurs, pour aller à ce village, depuis Kupang, vous pouvez prendre l'avion à destination de l'aéroport de Waingapu. Ou si vous choisissez d'utiliser le transport terrestre, vous pouvez prendre Transnusa avec un long voyage jusqu'à 4 heures. Depuis la ville de Waingapu, vous pouvez prendre la voiture de location ou le taxi-moto pour aller au village de Prailiu. Si vous voulez passer la nuit dans ce village, vous pouvez dormir à l'hôtel à Waingapu. Voilà le magazine culturel sur le village de Raja Prailiu à Nusa Tenggara de l'Est.
De Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français.
Sama-sama.
Chers auditeurs, c'était la chanson de Hi-Fi dont le titre est Sama Sama Tao, qui signifie On sait bien. Pour la rubrique suivante, voici l'Indonésie en couleur, la rubrique qui vous fournit des informations intéressantes en Indonésie. Chers amis, bonsoir. Voici l'Indonésie en couleur, informant sur la ministre indonésienne des Affaires étrangères qui a remporté l'étoile d'honneur Malala d'Afghanistan. Le président afghan Ashraf Ghani a décerné l'étoile d'honneur Malala à la ministre indonésienne des Affaires étrangères Retno Marsudi. Malala est l'une des plus hautes récompenses décernées par le gouvernement afghan à des personnalités afghanes et internationales qui ont apporté une contribution exceptionnelle à l'Afghanistan. Le prix a été décerné lors d'une visite de travail de la ministre des Affaires étrangères Retno Marsudi qui s'est tenue à Kaboul, Afghanistan, dimanche dernier. Le président Ashraf Ghani, peu de temps avant de parler l'étoile d'honneur, a expliqué que cette étoile d'honneur a été décernée pour un travail acharné continu pour la promotion de la coopération bilatérale et l'instauration de la confiance entre l'Indonésie et l'Afghanistan, l'instauration de la paix dans la région et le monde. L'étoile d'honneur Malala est l'une des plus hautes récompenses décernées par le gouvernement afghan. Le nom Malala est tiré du nom de l'une des héros nationaux d'Afghanistan, Malala Anna. Malala Anna a dirigé la lutte du peuple afghan contre l'occupation britannique en 1880. Pour ce prix, le ministre des Affaires étrangères, Retno Marsudi, a réaffirmé l'engagement de l'Indonésie à aider le processus de paix en Afghanistan. Cela est principalement lié à deux aspects, à savoir le dialogue d'Ulema, à travers la conférence d'Ulema en Indonésie en 2020 et l'autonomisation des femmes à travers le réseau de solidarité des femmes Afghanistan-Indonésie qui a également été inauguré le même jour. Retno avait précédemment assisté à la signature de l'accord de paix globale entre les États-Unis et les Taliban à Doha, Qatar, samedi, la semaine dernière. L'Indonésie a intensifié ses efforts pour contribuer à la paix en Afghanistan à la demande du président Ghani en 2017. En 2018, l'Indonésie a accueilli la réunion trilatérale des ulémas Afghanistan, Indonésie et Pakistan. En 2019, l'Indonésie a organisé une réunion des femmes indonésiennes afghanes. C'est tout l'Indonésie en couleur.
menunggu dalam bimbang, adakah sungguhnya aku kasih yang kau inginkan? Biar aku yang pergi bila tak juga pasti, adakah selama ini aku cinta sendiri? Biar aku menepi, bukan lelah menanti, namun apalah artinya cinta pada bayangan. Pedih aku rasakan kenyataannya, cinta tak harus selalu miliki. Ku menunggu dalam bimbang, adakah sungguhnya aku kasih yang kau inginkan? Biar aku yang pergi bila tak juga pasti, adakah selama ini aku cinta sendiri? Biar aku menepi, bukan lelah menanti, namun apalah artinya cinta pada bayangan. Pedih aku rasakan kenyataannya, cinta tak harus selalu miliki.
Voilà la chanson de Kahitna, intitulée Cinta Sendiri. Nous continuons notre programme avec les informations musicales. Bonne écoute! Voici le magazine musical et cette édition, je vous présente une chanson de Ikang Fauzi. En plus d'être chanteur, on connaît également Ikang Fauzi en tant qu'acteur indonésien. En tant que chanteur ou bien acteur, sa carrière a brillé dans les années 1980. L'une de ses chansons célèbres est intitulée « Preman ». Cette chanson est contenue dans l'album « Preman » qui est sorti en 1987. Bon, chers auditeurs, voici la chanson intitulée « Preman » chantée par Ikang Fauzi.
Metropolitan, menerkam. Jangan kau coba kawan cari perkara. Sejurus berak di petak. Paksi baba preman-preman. Oh, oh, oh. Paksi baba metropolitan. Paksi baba preman-preman. Oh, oh, oh. Paksi baba metropolitan. Di zaman resesi dunia, pekerjaan sangat sukar juga pendidikan.
Voice of Indonesia.
yang bahaya.
Voice of Indonesia.
Merah surya bertanda senja. Lama lagi fajar pun menghilang, malam datang bersama sepi, perasaan hampa. Angin malam meniup lembut rambutku. Dengarkanlah ini tentang kita.
chers auditeurs, c'était l'émission quotidienne en français pour ce soir. Merci de votre fidélité. Restez toujours avec nous à Voice of Indonesia de l'Indonésie à tout le monde sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web de www.voynews.id. Au revoir.